Voilà, donc bonjour, nous sommes le groupe SOS. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le groupe SOS. Nous sommes venus en nombre parce que je passerai la parole ensuite au docteur Gatelet, qui est un de nos médecins coordonnateurs et qui effectivement fait une spécialité sur la nutrition. Elle va vous en parler. Je passerai également la parole à madame Lapp, qui est notre diététicienne, et puis à Eric Bonabo, qui est un de nos cuisiniers, qui se présentera et qui a gagné un concours que nous avons organisé en interne et pour lequel nous avons réalisé un petit film que je vais vous projeter. Donc, le groupe SOS est un groupe privé non lucratif. Nous sommes associatifs. Nous avons 5 cœurs de métier que sont la jeunesse, l'emploi, la solidarité, la santé et le groupe senior que je dirige. Le groupe senior, c'est aujourd'hui une 50aine d'EHPAD, donc des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et effectivement, la nutrition est un enjeu tout à fait important dans nos EHPAD. Les repas constituent un temps fort de la vie des résidents, puisque quand on est résident dans les EHPAD, ça veut dire qu'on est évidemment vieux, dépendant, fragilisé. Et la vie est rythmée souvent par les repas, le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, qui constituent des moments forts où les gens se retrouvent en salle à manger avec des animations souvent autour de ces repas, des repas thématiques. Donc c'est vrai que nous accordons beaucoup d'importance chez SOS au moment des repas. Nous essayons dans la majorité des EHPAD d'avoir une cuisine internalisée, une cuisine dans laquelle les cuisiniers vont préparer en interne des produits frais à donner aux résidents lors de ces repas. Je vais vous présenter le petit film, vous comprendrez un petit peu mieux nos enjeux, et ensuite je passerai la parole au docteur Gatelet. Merci.
Alors, le projet Silver Fourchette, donc déjà, c'est un nom déposé, créé exprès pour cette action. C'est d'abord pour valoriser les métiers de nos cuisiniers en EHPAD, montrer le défi au quotidien pour restaurer de façon agréable nos résidents, des résidents qui ont différentes pathologies, donc mettre en place des plats qu'on mange tous les jours, et une nouvelle technique qui est la texture modifiée pour les personnes qui ont du mal à déglutir ou qui ont des problèmes pour mastiquer. Et montrer à tout le monde, et notamment aux jeunes, c'est pour ça qu'on fait nos épreuves dans les lycées hôteliers, montrer aux jeunes que la restauration en EHPAD, c'est pas négatif, que c'est joli et qu'on fait des belles choses.
Le restaurant n'est pas la seule finalement destination du métier de cuisinier, qu'ils peuvent aussi prendre beaucoup de plaisir à la fois à confectionner les repas pour des résidents âgés, et je pense aussi à les donner, parce que pour être cuisinier dans un EHPAD, il faut avoir beaucoup d'empathie envers les personnes âgées, et c'est ce qui est en tous les cas important pour nous dans le recrutement d'un cuisinier, de trouver une personne qui à la fois a des compétences certaines en matière culinaire, mais qui aussi a envie de mettre son savoir et son expertise au service du grand âge. Concours, c'est aussi de créer une émulation positive entre les cuisiniers. C'est pas facile dans son exercice professionnel de se remettre en cause, et quelque part ce concours, ça oblige à réfléchir sur son exercice professionnel.
Dans une maison de retraite, le cuisinier a une place très importante, puisque c'est lui qui va tous les jours nous faire les repas, et les résidents qui sont chez eux, dans nos résidences, ont besoin d'être stimulés et qu'on leur présente des plats goûteux, appétissants et savoureux. Alors la diététique, c'est important, mais ici, elle ne rime pas du tout ni avec régime, ni avec frustration. Au contraire, on essaye d'apporter tout ce qu'il faut aux résidents et à lui faire manger tout ce qu'il lui faut sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il ait l'impression qu'on le force ou qu'on l'amène à des choses particulières. Donc on a un plan alimentaire qui permet sur 5 semaines d'équilibrer les repas, de présenter tout ce qu'il faut en termes de qualité et de quantité. Mais après, ce ne sera pas quantifié jour par jour, à la calorie, au gramme près. On n'est pas du tout dans cette approche parce qu'on veut vraiment conserver la notion de plaisir de manger.
Étape 1, nos 46 EHPAD, donc nos 46 chefs cuisiniers, ont eu un cahier des charges avec un thème, c'était l'automne. Ils devaient faire une entrée, un plat, un dessert avec les textures modifiées correspondantes. Et donc, ils ont fait ce menu dans leur résidence, dans leurs EHPAD, et c'est les résidents qui votaient.
Donc, c'était un événement, voilà. Donc, on a décoré, bien sûr, l'établissement. Nous avons décoré la salle, nous avons décoré cette salle-ci. Également pour les invités d'aujourd'hui. Donc bien sûr, ont participé les résidents, ont participé les professionnels, mais également des personnes, effectivement, de la commune, des bénévoles et des familles.
Nos résidents sont très friands de ce genre de manifestation. Ils aiment, si vous voulez, dès qu'il y a une petite décoration, voilà. Comme disait Monsieur B, hein, parce que je ne peux pas citer, ça devrait être comme ça tous les jours. Donc, ils adorent ce genre de choses. Et après, c'est vrai que l'ambiance en salle à manger, il y avait de la musique, c'est convivial.
L'étape 2, c'est ce qu'on a appelé les finales régionales. Donc, nous avons défini 6 régions, 6 lycées hôteliers. Et donc, dans chaque lycée hôtelier, il y avait en gros 6 cuisiniers qui étaient présents. Et donc là, ils ont reproduit leur menu, mais cette fois-ci donc avec des commis, qui sont les jeunes des lycées hôteliers. Et donc, ils ont été notés en cuisine et en dégustation par des professionnels et également des résidents.
Donc, nous, on observe comment ils travaillent, comment ils conduisent leurs commis, comment ils dirigent les jeunes avec qui ils travaillent. Et puis, on voit si les jeunes s'intéressent ou pas. Là, c'était vraiment, tout était positif, c'était très bien, la réussite était parfaite, quoi.
Aujourd'hui, j'ai vu des personnes engagées, passionnées, engagées dans une rivalité pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes et obtenir un résultat.
Et là, on découvre des plats hein, comme la Saint-Jacques qu'on mixe et qu'on transforme pour faire manger à une personne qui n'arrive plus à mâcher. C'est formidable, quoi. On découvre des choses que moi-même, dans notre restaurant, ne ferais pas, quoi.
Donc, leur métier n'est pas très différent du nôtre, seulement ils ont une autre manière de travailler. Ils ont d'autres contraintes par rapport aux écoles ou aux restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils ont un coût à respecter.
On fait le même métier, oui, c'est des cuisiniers comme nous, sauf qu'ils sont obligés de s'adapter à ce que leur demande. C'est pas la même chose. Le même métier, oui, mais pas dans le même contexte, quoi.
Et donc, l'étape 3, donc c'est la finale. Donc, nos 6 candidats gagnants se retrouvent au CFA de Metz avec un panier imposé, des aliments imposés. Et donc, ils doivent composer toujours entrée, plat, dessert avec la texture modifiée.
Donc, je remercie l'ensemble des cuisiniers du groupe qui se sont prêtés bien, bien gentiment à cet exercice. En tous les cas, vous l'avez vu, c'est vraiment le plaisir des yeux. Les cuisiniers nous ont régalé, à la fois les papilles, mais aussi au niveau visuel, c'est assez formidable ce qu'ils ont été capables de faire. Et on est très contents de cette initiative du Silver Fourchette.
pâté fini. Donc, les prix ont été remis lors du colloque organisé par H-Village, l'approche non médicamenteuse des maladies d'Alzheimer. C'est Annie qui a remis le prix. C'est un partenariat que nous avons fait. On était très contents, tous les quatre, de ce choix. Donc, je vais céder la parole au docteur Gatelet, qui va vous faire une présentation donc un peu plus scientifique de ce pourquoi effectivement nous avons été amenés à faire ce concours et quelle est notre préoccupation au quotidien. Je ne sais plus, docteur, est-ce que c'est celle-là ?
Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Gatelet, je suis médecin coordonnateur donc dans un EHPAD à Florange exactement en Moselle. Tout le monde a entendu parler à la télévision, je pense. Donc pourquoi la nutrition, pourquoi la dénutrition ? Cela fait donc 10 ans que je travaille dans cet EHPAD et je me suis rendu compte peu à peu, comme le soulignait Madame Duval, de l'importance de la nutrition, de l'alimentation lorsque on vieillit. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler évidemment de ce sujet qui est très, très vaste et je voudrais donc juste vous faire passer quelques messages qui me semble important du point de vue de mon point de vue, en tout cas en tant que médecin. Premièrement, je voudrais que vous reteniez que alimentation et vieillissement ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit devenir dénutri. La dénutrition est un enjeu important. Elle se définit déjà tout simplement par un équilibre entre les apports énergétiques et les dépenses. Madame Lapp, qui présentera ensuite le point de vue de la diététicienne, vous expliquera également que ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit moins manger. Très souvent, j'entends « Oh, mais je n'ai pas besoin de manger de viande, docteur, je suis plus vieux ». Cela est faux. Pourquoi est-ce important de dépister la dénutrition ? Parce que la dénutrition, je passe parce que nous avons un temps un peu réduit, la dénutrition est importante et sa présomption parce que cela va conduire à un épuisement des réserves de l'organisme et la personne âgée va devenir beaucoup plus fragile, va perdre de son autonomie et va entrer dans la spirale de la dénutrition. Cette spirale va l'entraîner sur la piste, malheureusement, des infections à répétition, des infections pulmonaires, des infections urinaires, avec l'apparition de l'alitement, qui dit alitement dit escarre, qui dit alitement dit risque, exposé également à la gravatisation. Dans la première partie de la spirale, je dirais qu'on va récupérer notre personne âgée. Dans la deuxième partie, hélas, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc pour l'équipe en EHPAD, et j'essaie d'être un petit peu l'impulsion, je dirais, si c'est le bon terme, c'est de se retrouver en amont de cette spirale. Quels sont les critères de dénutrition ? Comment repérer la dénutrition ? Dans l'EHPAD, nous essayons systématiquement, à l'admission, de connaître les besoins de la personne âgée, ce qu'elle aime. Comme on l'a dit dans le premier film, il n'y a plus de régime lorsque l'on rentre en EHPAD. Le régime diabétique, le régime sans sel, tout cela n'existe plus. Il y a quelques années, lorsque j'ai fait mes études de médecine, on parlait de régime. Dorénavant, on n'en parle plus en EHPAD. Comment les dépister ? Donc on pèse nos personnes âgées. Tous les mois, les personnes âgées sont pesées, mesurées à l'admission ou alors on prend la taille de la carte d'identité pour calculer l'index de masse corporelle. Vous le connaissez tous, c'est le poids sur la taille au carré. On va également pouvoir faire un dépistage par le MNA, le Mini Nutritional Assessment, qui est en fait une enquête qui permet de voir où le bas blesse. Partant de là, on va donc avoir des critères dits diagnostiques de la dénutrition. Un seul de ces critères suffit à poser le diagnostic de dénutrition. Il s'agit d'une perte de poids supérieure à 5% en un an ou 10% du poids en 6 mois, d'où l'importance de peser la personne âgée à son admission régulièrement et lorsqu'il y a un problème, par exemple un retour d'hospitalisation. Le deuxième critère, c'est un IMC donc inférieur à 21. Le troisième critère est l'albuminémie, c'est-à-dire par le biais d'une prise de sang inférieure à 35. Et le quatrième critère est au test MNA, donc on appelle le mini-MNA, c'est un MNA un petit peu allégé dans notre jargon, qui doit se retrouver au-dessus de 11. S'il est en dessous de 11, on ira plus loin et donc on aura un MNA complet. Ça, ce sont les critères par l'autorité de santé et un seul de ces critères suffit à poser le diagnostic de dénutrition. Quand une personne est dite dénutrie, que faisons-nous ? Nous allons déjà regarder pourquoi elle ne mange pas, ou si elle mange ou si elle ne mange pas. Si les apports sont, dirons-nous, corrects, nous allons la peser toutes les semaines. Si nous voyons que ces apports semblent insuffisants, nous allons rechercher la cause. Donc là, c'est l'équipe en entier de l'aide-soignante qui doit s'assurer que le dentier est bien en place, que le dentier est adapté, ensuite qu'il n'y a pas de mycose au niveau de la bouche. Ça, ce sont les premières idées qui doivent venir en tête de l'aide-soignante qui est au plus près. Ensuite, pourquoi elle ne mange pas ? Pourquoi elle a moins faim ? Est-ce qu'elle n'est pas douloureuse ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut savoir y réfléchir. Et c'est le travail de l'équipe. La prise en charge de la dénutrition, donc là, elle est un peu, je dirais, l'effet va être reprise, je pense, pour Madame Lapp ensuite. Moi, en tant que médecin, je vous ai remis là les pathologies auxquelles il faut penser, que nous discutons toujours en équipe. Je répète à l'équipe, je dirais, d'aide-soignante et d'infirmière qui travaillent avec moi, regardez la bouche, recherchez la douleur, recherchez la dépression, regardez si elle arrive encore à ouvrir son pot de yaourt, si la cuillère va bien, si le voisin ne l'embête pas, et surtout, laissez-leur le temps de manger. Car très souvent, comme pour les enfants d'ailleurs, on ne laisse pas assez de temps pour manger. Et des études ont montré que si on donne un temps suffisant, au moins 45 minutes pour un repas, on augmenterait les prises alimentaires de 25%. Voilà, pour la partie diagnostique, pour la partie prise en charge thérapeutique, c'est bien sûr une alimentation qui va être enrichie avec des choses, je dirais, de la vie quotidienne, du beurre, de la crème, du fromage, du gruyère. Ensuite, on va utiliser les compléments nutritionnels oraux, mais de plus en plus, on se rend compte que les résidents n'aiment pas ces compléments nutritionnels oraux. Auparavant, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'entendais « Oh, il n'a pas mangé aujourd'hui, c'est pas grave, on lui a donné un complément, docteur ». Tout ça, ça ne se fait plus, on essaye d'y réfléchir. Le complément nutritionnel oral ne doit pas remplacer une alimentation. Ensuite, nous avons le choix pour les personnes qui ont du mal à avaler, à avoir une alimentation adaptée. Donc là, ça va être la partie de Madame Lapp. Voilà pour la prise en charge, je dirais, de la dénutrition en EHPAD, qui est vraiment la pierre angulaire de la vie de la maison de retraite. Merci.
Merci au docteur Gatelet. Vous avez bien compris qu'elle pourrait vous en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui la préoccupe. Voilà, donc Catherine Lapp va vous dire quelques mots sur la diététique en EHPAD.
Bonjour à tous. Alors vous allez vous dire, bah, après tout ça, à quoi sert une diététicienne si on ne fait plus de régime dans un EHPAD finalement, puisque le docteur Gatelet a dit qu'il n'y avait plus de régime. Eh bien, la diététicienne a quand même un rôle important, là je vais mettre un petit peu en valeur, pour faire le lien finalement entre les cuisiniers et les médecins. On a donc la partie diagnostique, comme on l'a entendu, le côté médical, mais ensuite il va s'agir de mettre en place la partie pratique. Parce qu'une fois qu'on connaît les problèmes, bah, il faut trouver des solutions. Donc les solutions, elles passent bien sûr par des régimes adaptés, enfin des régimes. Alors là, le terme de régime est un petit peu galvaudé, parce que quand on dit régime, on pense souvent à maigrissant, sans sel, diabétique. Pour moi, le régime, c'est en fait avoir une alimentation adaptée aux besoins de la personne, qu'elle soit jeune, âgée, malade, etc. Ici, on va se retrouver avec des personnes fragiles qui ont des besoins augmentés. Contrairement à ce qu'on pensait, ce qu'on a dit, c'est que les besoins sont souvent très augmentés, supérieurs à ceux d'un adulte bien portant. Donc toute la problématique et tout l'enjeu va être comment leur faire manger tout ce dont ils ont besoin, c'est ce que je disais aussi un petit peu dans le film, sans les forcer, sans les contraindre, mais de manière agréable. Parce que le seul point positif qu'il y a dans cette alimentation et qui devrait le rester jusqu'au bout, c'est le plaisir de manger. Et toute la difficulté va se trouver dans cette problématique, c'est comment faire manger quelqu'un quand il n'a pas faim ou quand il n'a pas envie, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer. Donc l'alimentation, grâce à des cuisiniers sur site la plupart du temps, nous permet de pallier plus rapidement à ces difficultés, avec bien sûr un plan alimentaire, comme il a été dit, qui permet pour nous qui sommes un groupe un petit peu délocalisé sur le plan géographique, de respecter les traditions culinaires. C'est-à-dire que le menu du lundi à Lille ou à Valenciennes ne sera pas celui de Strasbourg, celui des Vosges ou celui de Paris. Chaque cuisinier peut appliquer, malgré des contraintes, on va dire, nutritionnelles, diététiques assez importantes, peut adapter aux contraintes locales, régionales et personnelles. Et ça, c'est quelque chose de très important et qu'on essaye vraiment de favoriser. Mon rôle aussi, à travers ça, ça va être de trouver les produits alimentaires qui vont être servis aux résidents et qui correspondront à la fois à mes attentes de diététicienne et aux attentes des cuisiniers et aux attentes des résidents. En fait, c'est ce savant mélange qu'il faut essayer de réaliser pour que chacun y trouve son compte. Donc, une fois qu'on a des résidents qui vont avancer en âge avec des pathologies différentes, on va être obligé d'adapter les textures. Donc, d'où vient cette idée du concours? C'est que quand j'ai commencé ma mission dans les maisons de retraite, ce qui était servi, c'était de la purée, du jambon, de la soupe et des yaourts. Et on me disait, toi, diététicienne en EHPAD, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir y faire? Et pourquoi avoir des cuisiniers? De toute façon, pour ce qu'ils y font, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on montre que l'alimentation, pour des personnes âgées, a un côté agréable et qu'on doit le valoriser. Donc, on a commencé par se poser la question, comment faire pour permettre aux résidents de manger le même repas, quelles que soient ses difficultés, avoir le même repas, les mêmes composantes, c'est-à-dire des entrées, des salades, des crudités, des desserts, des gâteaux. De la même manière, c'est pas parce qu'on a du mal à les mâcher ou à les avaler qu'on doit être contraint et forcé de manger tous les jours yaourt compote. Donc partant de ce constat, on a donc formé tous nos cuisiniers avec un formateur spécialisé. On leur a acheté les fameux robots que vous avez vus là qui tournent avec des couvercles où ils font toute leur préparation. Et on s'est lancé dans la préparation et la déclinaison en texture modifiée, c'est-à-dire qu'on part du repas normal et qu'ensuite on va l'adapter. Ça ne veut pas dire que ça a toujours la même consistance, mais que ça permet de décliner toutes les textures dont ont besoin les résidents. Et une fois que tout le groupe s'était bien investi dans cette mission, on a décidé de les mettre en concurrence, d'organiser ce concours pour un petit peu les stimuler et puis aussi montrer à la fois aux restaurateurs qu'on a fait intervenir, aux lycées, aux professeurs, aux enseignants, que la profession de cuisinier en EHPAD était finalement un métier à part entière, très méconnu, et qu'il fallait vraiment le mettre en avant, le valoriser, voire peut-être même y trouver des modules spécifiques dans le cadre de la formation, puisque les cuisiniers, Eric vous en parlera, on ne se destine jamais à être cuisinier d'EHPAD au départ. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément à l'esprit des jeunes ou même des moins jeunes qui se reconvertissent. Mais finalement, on peut y avoir beaucoup de plaisir et en tant que diététicienne, c'est exactement la même chose. On n'a pas besoin de faire maigrir les gens ou de leur prescrire des régimes sans sel pour s'épanouir et avoir des beaux projets qui peuvent aboutir. Et donc, pour moi, c'était vraiment une fierté de les faire participer à ce concours. Et bien sûr, le gagnant qui est avec moi aujourd'hui est très fier. Mais je pense que tous ceux qui ne sont pas là, et je voudrais vraiment qu'on ne les oublie pas, parce qu'ils ont tous vraiment beaucoup travaillé, sont beaucoup investis. Fallait un gagnant, fallait un premier. Mais je pense qu'ils ont vraiment tous beaucoup travaillé. Alors, il y avait le concours, mais le concours ne traduit en fait que le quotidien. Ils n'ont pu participer que parce qu'ils savent faire ce travail au quotidien, tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, pour les résidents. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le concours. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je vais laisser la place à Eric. Merci.
Voilà, merci Catherine. Donc Eric est le vainqueur de la Silver Fourchette. Il vous a préparé quelques petites choses que vous allez déguster après. Il va juste vous dire un mot. Je voulais juste vous dire que spécifiquement, il était venu de Metz. D'ailleurs, toute l'équipe est venue de Metz. Mais Eric et Catherine sont venus pour vous préparer dans notre EHPAD de Bobigny les petites choses que vous allez déguster après. Et juste pour que vous ayez à l'esprit, Eric travaille dans un EHPAD où 100% des résidents ont des problèmes cognitifs. Ce sont des résidents qui ont souvent ce qu'on appelle des troubles Alzheimer et apparentés. Et malgré ça, et peut-être juste à cause de ça, eh bien, voilà, il a eu envie de se dépasser et il va vous raconter son histoire. Merci.
Bonsoir à tous. Alors voilà, comme ils vont annoncer, j'ai effectivement gagné ce concours Silver Fourchette, dont je suis très fier. J'ai une pensée pour mes collègues aussi parce que ça nous a permis de nous rencontrer sur un terrain extérieur à nos EHPAD. Ça nous a permis de nous exprimer aussi. Voilà, on s'éclate tous dans nos EHPAD et puis là on a montré, bien sûr, pour un concours, on a montré ce qu'on savait faire de mieux. Donc voilà, c'était une satisfaction personnelle, je pense une satisfaction aussi globale, je pense à mes collègues, parce que ça nous a permis de voilà d'en discuter et puis d'évoluer entre nous. Et puis je pense qu'il y a encore d'autres. Une suite qui en découlera avec des recettes et des échanges. Maintenant, plus précisément, mon travail en EHPAD, donc, comme vous l'a dit Madame Duval, c'est une maison de retraite où on accueille des résidents Alzheimer. Donc le défi est d'autant plus difficile à relever au quotidien par le retour des plats qui ont été consommés le jour même. Donc ça, c'est entre guillemets une commission repas quotidienne avec un échange des soignants en... C'est instantané, ça a plu, ça a pas plu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait plus, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On travaille donc sur une base de plans alimentaires avec des menus traditionnels, donc des produits du terroir, des produits de saison, avec les fournisseurs donc, qui nous approvisionnent 3 à 4 fois par semaine, donc pour les primeurs je parle surtout, les fruits aussi, on fait très attention au mûrissement des fruits parce que... avec la particularité de la maladie d'Alzheimer, la déglutition et les problèmes de dentition. Donc c'est aussi un effort qu'il faut faire quotidiennement. Donc les plats sont déclinés également en textures modifiées donc, à partir du menu d'origine. Et on a aussi une attention particulière lors du service qu'on effectue dans les unités, en fait, parce qu'il y a 5 unités qui sont protégées. Donc on se déplace avec le bain-marie, on fait un service le plus rapide possible et on adapte à chaque résident en fait une portion plus conséquente ou moins conséquente en fonction du petit-déj, en fonction de son envie du jour. Si, voilà, s'il a pas mal aux dents, ben, il mangera peut-être un peu plus que la veille. Et puis donc ça, on arrive à être réactif à ce niveau-là et à ajuster en fait le service. Que dire, les menus, bon, je vous l'ai déjà dit, sont régionaux. Nous, on est à Metz, on a une clientèle donc lorraine, on a des plats de notre région et on essaye en fait d'attiser déjà les odorats le matin en faisant une cuisine, ça mijote, ça sent bon dans l'EHPAD. Quand on fait une tarte aux pommes, on sait qu'il y a une tarte aux pommes à midi, une choucroute, c'est pareil, donc on essaye déjà d'éveiller un peu d'essence olfactif parce que ça sent bon dans la maison de retraite. Et puis après, on leur pose des questions avant le repas. Ça, c'est aussi un peu le travail des soignants. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on mange? D'après vous, Et puis, nous, on arrive avec le repas. Et puis, c'est c'est un métier qui est assez complet parce que c'est un défi quotidien en fait. Hein. C'est une remise en question chaque jour. Et puis je disais à mon collègue de Bobigny en travaillant avec lui cet après-midi qu'on pouvait faire 10 fois le même plat dans l'année. Ça peut être 10 fois un plat différent, mais voilà, il faut qu'il soit chaque fois réussi, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit servi à l'heure, il faut qu'il soit chaud. Et il y a toute la traçabilité, toute la partie hygiène alimentaire qu'il faut savoir maîtriser aussi. Donc c'est un équilibre en fait. C'est assez intéressant. Donc les menus, on est assez libre en fait à l'élaboration des menus. On a un plan alimentaire, on le respecte. Et puis on fait nos appellations, on réceptionne les produits, on les commande, on les stocke, on les cuisine, on les trace. Et voilà. Après on attend le retour de la salle et voilà, ça se passe bien. Donc voilà. Oui. Alors les ateliers, je fais un atelier par mois pâtisserie avec les résidents. Donc les unités sont équipées d'une cuisine, d'un frigo, d'un lavabo, d'une plaque de cuisson, d'un four. Donc ça nous permet de faire des petits ateliers et de faire participer les résidents. On a aussi donc les ateliers mémoire. Ça, j'y participe pas souvent, mais ça peut arriver. Et voilà, c'est dans une ambiance toujours conviviale. Les résidents, bon, s'ils sont motivés pour participer, c'est tant mieux. Sinon, ça fait une activité pâtisserie, goûte, c'est frais, c'est consommé tout de suite. Et voilà, encore une fois, des produits qu'ils aiment. On peut faire des tartes, des moelleux au chocolat, on fait des crèmes caramel.
Voilà, bon. Je pense que ça vous a donné envie quand même de découvrir. Hein, voilà. Eric, peut-être expliquez-nous ce que vous avez fait pour la dégustation.
Alors voilà, pour concrétiser un petit peu ce que je viens de vous dire au niveau du travail culinaire, il y a une petite verrine de. Alors c'est de la texture modifiée, donc c'est un dérivé du plat d'origine. Donc une salade de betterave et un coulis de mâche. Il y aura une tarte au citron et il y aura un petit moelleux de poulet avec une mayonnaise au curry. Donc. C'était pour faire représenter une entrée, un plat et un dessert.
Et un dessert, voilà, tout ça en texture modifiée. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dedans, il y a l'équivalent quasiment d'une petite assiette.
Voilà, oui. En fait, en mixant.
On a toujours beaucoup de mal à le croire, moi la première, quand on dit, c'est l'équivalent d'une petite assiette d'entrée.
En termes de poids, voilà, on est. Bon là c'est des verrines plus petites, mais disons que quand on mixe un produit d'origine comme la salade, une mâche dans une assiette elle va faire un volume. Quand elle sera mixée, elle représentera quasiment plus grand chose. Là j'ai mis pour faire 48 verrines 1,5 kg de mâche, ouais.
Donc
ça représente un volume assez conséquent en termes de volume, mais après en texture c'est plus petit.
Alors,